Ce matin, nous débutons une nouvelle série de deux semaines, donc ce dimanche et dimanche prochain, qui s'intitule « Trouve ta place ». Et des fois dans la vie, il y a ce terme-là qu'on utilise, « être sur son X », de trouver, je ne sais pas si dans votre vie, vous êtes à la place que vous voulez. Et on peut regarder à travers cette série-là, oui, on va regarder, vous êtes « trouve ta place dans l'Église », on va en parler, mais dans la vie, on va regarder des pistes pour un peu trouver sa place dans la vie. J'aime bien cette citation-là qui continue de me parler encore aujourd'hui, mais depuis les deux dernières années, de Emily P. Freeman qui dit c'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que tu dois le faire pour toujours. Et ça me fait réfléchir encore jusqu'à aujourd'hui. Et à savoir qu'est-ce que tu fais. Moi, ça m'impressionne de voir des fois des jeunes secondaires puis font comme moi, je vais être chirurgien. Puis ils deviennent chirurgiens. Je fais comme waouh. Ben, pas moi. Alors là, présentement, en plus, là, je suis plus dans une zone. Quand j'étais petit, si vous m'avez demandé à 7 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? La réponse était simple, astronaute. Je me suis rapproché quand même de ce rêve-là, parce que je suis souvent dans la Lune. Facile, plate, mais bon, j'ai le droit, il me reste 5 mois. Mais, et là, de 7 ans à genre 11 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pas compliqué, là, j'étais gardien de but au hockey, je jouais au Pee-wee, puis là, je regardais le Canadien, puis... Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Gardien de but dans la Ligue nationale! Encore une fois, je me suis rapproché un petit peu. Le lundi, je joue dans la Ligue non nationale de hockey. Très proche, dans les deux rêves très proches. Mais là, présentement, moi, je trouve une place où je rencontre des gens, où il y a des gens qui m'appellent, puis ça finit toujours par « Pis, qu'est-ce que tu vas faire? Sais-tu qu'est-ce que tu fais? » Et je me sens un peu comme le kid du secondaire qui se retrouve à Noël dans un party de famille, puis mon oncle, puis ma tante, puis tu t'en vas étudier dans quoi au cégep? Ouais, c'est parce que là, je ne vais pas étudier au cégep. Et c'est pas si évident de savoir. Et ici, des fois, on est à notre place, mais est-ce qu'on est dans notre place avec Dieu aussi? Trouver notre place avec Dieu, trouver notre place avec notre situation personnelle, avec notre travail. Est-ce qu'on est à notre place? Dans Éphésiens 2, le verset 10, ça dit « En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » En théorie, c'est simple. Vrai? On ne se pose pas la question. Ça dit que Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous pour que nous les pratiquions. Dit comme ça, c'est pas compliqué, tu as juste à le faire. Mais la question, c'est quoi? Pour vrai, là, c'est juste c'est très général. Mais au moins, la bonne nouvelle, on sait que Dieu a pensé d'avance à nous. Dieu nous a créés tous, et c'est ça qui me fascine, le fait qu'on est tous créés différemment, avec des dons, des capacités différentes, avec des goûts, avec des façons de voir, des philosophies qui sont différentes. Et à travers ça, c'est là où Dieu veut nous rencontrer et veut qu'il a préparé des œuvres bonnes pour chacune de nos vies. Et c'est là où il faut juste savoir, découvrir, OK, là où je suis rendu dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance pour moi? On va regarder quelques pistes pour voir comment trouver notre place. Premièrement, tu dois savoir qui tu es. Ça semble un peu comme... un peu stupide ou facile, je sais qui je suis, mais c'est pas, je me rends compte que bien des gens ne savent même pas qui ils sont, puis il y a des gens qui vont mourir en ne sachant pas vraiment réellement qui ils sont. Et des fois, on ne sait même pas qui on est en Dieu non plus. Combien de gens se sentent toujours souvent trop coupables, pas assez bons, et quand ils ont de la difficulté à s'approcher de Dieu, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Jésus. Dans Psaume 139, 14, ça dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Et ça devrait commencer avec ça, de savoir qui on est, de savoir, justement, comme le texte d'Éphésiens nous dit, nous avons été créés. Dieu nous a créés. Et le psalmiste, lui, reconnaît, dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Et ça commence, de savoir qui on est, ça commence avec de savoir que Dieu nous aime, pour qui nous sommes. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui de comparaison. Épouvantable. C'en est épeurant. Les gens se comparent, les gens sont... j'écoutais une série d'émissions avec un entrepreneur qui rencontre d'autres entrepreneurs. Et des gens qui, selon la société, ont réussi, mais ce que je trouvais fascinant, c'est que l'angle qui a été prise, c'est de parler avec chaque personne de son parcours personnel de vie, de qu'est-ce que j'ai fait comme, en tant qu'entrepreneur. Et chacun et chacune de ces personnes-là va mentionner la route que personne ne voit. Ce que tu ne vois pas sur les réseaux sociaux. Tu ne vois pas ce qui est publicisé. Ce qui est publicisé, c'est la réussite. Ce qui est publicisé, c'est ça va bien. Ce que je vends les produits, je grossis ma compagnie. Mais en arrière de ça, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et à chacun, le parcours, et chacun a sa définition, justement, du succès. Et il y a une femme, entre autres, qui m'a interpellé dans le sens que elle, pour elle, elle a une petite sandwicherie à Montréal qui est devenue un peu populaire malgré elle. Elle ne fait pas de grosses pubs et tout ça, mais tout le monde tripe sur les sandwichs. C'est une business de quartier. Puis elle aurait l'opportunité de faire comme, j'engage plein d'employés, je grossis, je vais faire compétition à Subway. Et elle a fait comme, non, moi je reste qui je suis, je reste tout petit, je n'ai pas besoin d'employés, je veux juste rendre ma business toute seule. Respect, sincèrement respect. Parce que souvent justement, on se compare et dans notre vie spirituelle aussi on se compare. On n'est jamais à la hauteur de quelqu'un d'autre ou quelqu'un qu'on pense que et ainsi de suite. Mais de commencer à savoir que juste là où on est, avec ce que Dieu m'a donné, de la façon dont il m'a créé, il m'aime comme ça. Et ça, c'est la base solide pour tout le reste. De savoir, de reconnaître. Le psalmiste dit, je le reconnais. Et c'est pas facile. Faites l'exercice demain matin, lundi matin en plus. Y a-t-il des fans de lundi matin? Moi, je déteste les lundis. C'est épouvantable. Je déteste les lundis. Je fais comme, pourquoi? On ne pourrait pas avoir deux dimanches? Deux samedis à la place, on abolit. Moi, c'est une pétition. C'est sûr, je lance ça, pétition, j'écris au gouvernement, là, on abolit les lundis, c'est fini, là. On ne peut pas. On commence mardi. Let's go. Mardi, il me semble, on est dedans un peu. Lundi, c'est tough. Mais demain matin, en vous levant, et ça, c'est pas un exercice que je fais, parce que je me regarde rarement dans le miroir. Des fois, je fais comme, ouais. Mais pas souvent. Pas souvent. Mais faites l'exercice pour voir, c'est pas facile, je ne l'ai même pas fait moi-même, je le fais demain matin, okay, on le fait? On le fait. On se lève demain matin, toute la gang, on va devant le miroir, peu importe de ce qu'on a de l'air, peu importe nos cheveux sont comment, c'est pas grave, si les femmes ne se sont pas démaquillées, ça coule, c'est pas grave. Et de te regarder dans le miroir, de dire « je suis une créature merveilleuse ». On fait ça, on le fait. Je le fais, là. Moi je le fais, ça va être tough. Je le dis, puis je fais comme, tu vas vraiment faire ça? Ouais, non, c'est ça. OK. La deuxième question à se poser, c'est qu'as-tu dans la main? Qu'est-ce que Dieu t'a donné à toi? Pas aux autres, pas les capacités que tu aimerais avoir, pas ce que l'autre fait ou fait pas. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et malheureusement, des fois, justement, on pense qu'on n'a rien. Et des fois, on a plus qu'on pense qu'on a. Ça fait du sens? Dans Exode 4:2, l'Éternel dit à Moïse, qui a-t-il dans ta main répondu un bâton? Parce que Dieu l'a appelé justement à délivrer le peuple d'Égypte, puis lui, il fait comme, non, ça ne marche pas. Il va trouver toutes les défaites. Moïse va dire, bien, premièrement, il arrive à 40 ans. Tu ne startes rien à 40 ans. De toute façon, 40 ans maintenant, c'est le nouveau 30 ans. Mais pas à cette époque-là. Et là, en plus, il est là, puis je ne peux pas, parce que je bégaye. Les gens ne me comprendront pas, j'ai pas l'allocution, j'ai pas la capacité, j'ai pas étudié en management, en leadership. Je garde des moutons. Et c'est impressionnant à quel point Dieu choisit des gens qui ont gardé des moutons pour accomplir quelque chose. Donc, si jamais vous cherchez quelque chose à faire, c'est ça de même. Non, mais on rêve toujours au moment où il y a quelqu'un. Tu sais, quand on cherche quelque chose, on veut une réponse dans notre vie, on espérerait que quelqu'un nous vienne après la réunion ou vienne chez nous, cogne à la porte ou un ami nous appelle et dit « Ainsi parle l'Éternel ». On fait « Oh, là, on écoute ». Mais tu sais, « Ainsi parle l'Éternel », tu vas te starter un élevage d'alpaga. Là, c'est un autre game. Mais c'est vrai, Dieu a fait trouver la place à des gens alors qu'ils pensaient être à sa place, mais ces gens-là n'étaient pas à la place. De David, de Moïse, à Abraham, à name it. Ils étaient tous à un endroit, puis ils disaient, OK, je suis confortable, je suis bien dans cette zone-là. Et Dieu est venu les chercher pour dire, bien, en fait, tu as plus à offrir que ce que tu penses que tu as présentement. Et je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Moi, il dit, ben, j'ai un bâton. Et là, Dieu va transformer. Il dit, jette-le à terre. Le bâton se transforme en serpent. Puis il dit, tiens-le par la queue. Il revient. Il dit, je veux juste te montrer à quel point c'est moi qui vais le faire, c'est pas toi. Ton bâton, il vaut rien. Mais dans ma main, il vaut tout. Et des fois, le petit qu'on a, les petits dons, les petits talents, les petits trucs qu'on fait, qu'on dit, ben, c'est pas une grande chose. Arrêtons de comparer aux autres et de voir, bien, qu'est-ce que Dieu dit de ça? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ce que toi, tu penses qui est le petit peu? Quels sont tes désirs et tes aspirations? Et ça, ce n'est pas un sujet, c'est comme, tu sais, des fois, on arrive avec Dieu dans l'église, c'est comme, ah non, tu ne peux pas avoir de désirs et d'aspirations, il faut que tu sois modeste, il faut que tu sois humble, il ne faut pas que tu dises des trucs. Mais en fait, Dieu a placé dans ta vie des désirs, des aspirations, des passions. Et des fois, on met ça sur le sang de côté, puis des fois, on met ça un peu dans l'oubliette. Mais des fois, Dieu veut juste rappeler, il veut juste se demander qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que j'ai placé? Qu'est-ce qui mijote, là? Qu'est-ce qui t'allume? Tu sais, quand tu parles, tes yeux s'allument, fait comme, OK, ça, c'est la passion de telle personne. Il y a des personnes qui sont passionnées dans tout, là. Ça, je fais comme, wow, j'ai impressionné, là. Moi, j'ai une couple de petites affaires. Mais pas tant. Et dans Marc 10, justement, verset 51, il y a cet aveugle-là qui est sur le bord du chemin, et Jésus va s'arrêter, et Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Mon maître lui a répondu, l'aveugle, que je retrouve la vue. Ça, c'est pas dans le texte, ça, c'est dans ma tête. Quand je regarde le scénario, pour moi, je vois Pierre qui est à côté de Jésus. Parce que là, ça fait pas de sens. Jésus sait qu'il est un aveugle. Tout le monde sait que c'est un aveugle. Encore plus Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sérieux? Moi, je vois Pierre qui donne un coup de coude à Jésus, fait comme, ben, sérieux, comment? Tu vois bien qu'il ne voit pas? C'est évident, tout le monde le voit. C'est sûr qu'il veut retrouver la vue, là. Fais juste le guérir qu'on s'en aille, c'est malaisant ton affaire. Puis tu as Thomas qui est l'autre bord, fait comme, ben, je sais pourquoi il pose cette question-là, parce qu'il ne veut pas, il ne guérira pas. Ça ne marchera pas, il ne sera pas capable. Jésus va lui demander, il sait très bien que c'est ça, mais il veut que l'aveugle lui dise, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et honnêtement, je pense que cette question-là, Jésus nous la pose ce matin à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bien que je sais avant même que tu parles, la parole qui est dans ton cœur, je sais, mais je veux que toi, tu réveilles ton désir et ton aspiration. C'est ça que je veux, Seigneur. Parce qu'on ne peut pas trouver notre place si on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie. Si on ne sait pas ce qu'on veut pour notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, dans notre vie professionnelle, peu importe les domaines de notre vie, si on n'est pas capable de le nommer ou on est trop... Jésus veut juste que... Dis-le, confesse-le, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là que la prière de voyons, voici où va se trouver ma place. Mais il faut que ça commence avec le désir que tu as dans ton cœur. Et Jésus fait juste te demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu dois être à l'écoute et avoir du discernement. J'aime bien Proverbe 11, 14 qui dit, « En l'absence de directive, le peuple tombe, le salut réside dans un grand nombre de conseillers. » Et Dieu a placé des gens autour de nous pour nous aider à trouver notre place. Des fois, on est les pires personnes pour voir qui on est. Pour voir les dons, les capacités qu'on a. Et j'ai fait un exercice dans les derniers mois, c'est écouter les gens. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de moi? Que des bêtises. Non, c'est pas vrai. Mais juste pour voir qu'est-ce que les gens disent de qu'est-ce que je suis, c'est quoi mes capacités, c'est quoi mes dons, c'est quoi. Et juste pour faire, est-ce que ce que je vois de moi, c'est la bonne chose? Est-ce que ça fait juste confirmer? Ou pas du tout? Et Dieu a placé des gens autour de nous pour nous aider à trouver notre place, pour nous aider à avoir un sens de direction, pour confirmer justement peut-être les désirs et les aspirations qui sont dans notre cœur. Et le prochain point, l'inconfort nous conduit à l'endroit où l'on doit être. Ouf! On est bon dans la vie de tous les jours et dans une vie spirituelle à l'Église pour tenter le plus possible d'être confortable, vrai? Arrêtez de mentir, je sais que c'est ça. On veut tous chercher le confort. Mais quand on regarde dans la Bible, je trouve aucun endroit, aucun moment où Dieu a appelé un homme ou une femme te dire, là, je t'avertis, ça va être Cancun 24/7. Prépare-toi, il y a une chaise longue pour toi, là. À chaque fois, c'est de déplacer chacune de ces personnes-là pour les placer dans un endroit d'inconfort. Ouf! Et ça, on ne veut pas l'entendre. Jusqu'à date, ça allait bien, là. Les aspirations, tout le monde veut ça, qui je suis, et ainsi de suite. Mais là, quand tu parles d'inconfort, oups! Là, on est moins réceptif. Mais si on est honnête, d'un couvert à l'autre dans la Bible, nommez-moi un endroit où Jésus ou Dieu a fait, je vais te placer dans un endroit de confort. C'est là que ta foi va grandir. C'est là que tu vas être à ta place. C'est là que tu vas accomplir les œuvres que j'ai créées d'avance pour toi. La réponse, c'est non. Dans Actes 11, versets 4 à 9, j'aime ce passage-là. Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit, « J'étais dans la ville de Jaffa et pendant que je priais, j'ai eu un extase, une vision. » Un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'examinais attentivement, j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix me disant, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais j'ai dit, certainement pas Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Pour la deuxième fois, la voix s'est faite entrant du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. Pierre était sous le toit, en train de prier, bien chill, tranquille, confortable. Et là, Dieu va lui parler pour le mettre dans une position d'inconfort. Parce que Pierre, lui, dans sa conception de, une fois que Jésus est parti, il est revenu, puis il a dit, bon, faites des disciples, et ainsi de suite. Là, Pierre, il s'est concentré juste sur les Juifs, sur ses amis. Sur les gens avec qui il était bien. Et c'est ça, dans le fond, le salut, Jésus est venu pour le peuple de Dieu. Les autres, who cares? Ils s'arrangeront avec leur statut puis toutes leurs patentes. Puis ils iront, on ne sait pas. Mais à ce moment-là, il dit, non, c'est parce que tu n'as pas compris. Et c'est là que Dieu va sortir Pierre de sa zone de confort pour l'amener à accomplir, pour être à l'endroit où il devrait être. Pour l'amener à accomplir ce que Dieu avait préparé d'avance pour lui. Le sortir de sa zone de confort. Bob Goff a dit, le prix de l'acceptation est trop élevé si ça te coûte qui tu es. Le prix de l'acceptation est trop élevé si ça te coûte ce que tu es. Ici, dans ce passage-là, justement, il y a un malaise avec Pierre parce qu'il dit, non. Je ne peux pas aller vers les autres peuples qui, selon moi, on ne touche pas ces personnes-là, on ne leur parle pas, on leur dit des bêtises parce que c'est pas, ils sont impurs. Et la journée où tu choisis de se faire OK, mais tous tes amis, tous les autres juifs, tous les autres vont te regarder, vont comme hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et c'est toujours un choix. Des fois, de prendre des décisions dans la vie, de prendre des décisions et de savoir que bien, je pense que je suis à ma place. Là, c'est Dieu m'appelle à être là. Et des fois, ce n'est pas tout le temps l'endroit où tout le monde va faire comme « Wow! » Moi, je me rappelle quand on a décidé de démarrer Mosaïque au centre-ville, Saint-Roch n'était pas du tout comme il est aujourd'hui, il n'était pas revampé, c'était une place, c'était pas fréquentable. Et combien de croyants m'ont dit « En tout cas, ça prend une grâce spéciale pour aller là, parce que j'irai pas là. » Plusieurs fois, je me suis fait dire ça. Puis à chaque fois, je me disais, bien, honnêtement, je pense que c'est là que Jésus serait fait. Et pour moi, ça a été ça, de se placer dans cette position-là d'inconfort, bien, fait en sorte qu'on est aujourd'hui où on est. Malheureusement, on tend à vouloir demeurer confortable. C'est une des raisons qu'on n'a pas changé les bancs de l'Église. On dit, ah, les bancs sont durs, pourquoi on ne les recouvre pas? Pourquoi? Non, on les laisse de même. Vous êtes inconfortable, vous écoutez. Plate, pas plate. Vous n'avez pas le choix. Vous restez réveillé. Mais on tend toujours à vouloir être. On tend à vouloir à être accepté hein, dans ce qu'on fait dans notre vie. Et combien de fois, hein, on voici ce que je fais dans la vie. Les premières, quand tu rencontres quelqu'un, les premières questions que tu poses, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Les gens veulent savoir ça comme si ça change tout. Mais ça ne dit rien, en fait. Ça ne veut pas dire qui tu es en tant que personne, en tant qu'individu. Ça ne détermine pas tes qualités. Ça ne détermine pas profondément qui tu es. C'est juste un titre, c'est juste une fonction, c'est juste des capacités, des choses que tu es capable de faire. Mais souvent, c'est ça. Puis si on pense des fois, « Ah, oh, ben, si je dis ça, les gens vont faire comme moi, c'est juste ça que tu fais comme travail. » C'est vrai. Les gens vont avoir un jugement par rapport à ce que tu fais dans la vie ou tu ne fais pas. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Et souvent, on tend à vouloir se placer dans une position où tout le monde va nous accepter. Où ça va être confortable, où on va se sentir bien. Mais si le prix de l'acceptation est trop élevé et que ça te coûte qui tu es, parce qu'en fait, là où tu es, tu n'es pas à la bonne place, parce que tu n'es pas qui tu es vraiment, si tu n'es pas capable d'être qui tu es vraiment là où tu es dans ta vie présentement, il y a un problème. Et parle-en à Dieu. Esther 4, les versets 12 à 14, ça dit... On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Wow! Encore une fois, position d'inconfort. Et bien qu'on se dise, mais c'est la reine, mais à cette époque-là, la reine, elle ne pouvait même pas contredire le roi, elle ne pouvait même pas dire que le roi a tort ou quoi que ce soit, elle pouvait mourir. Et là, c'est ça qui se passait. Il y avait une conspiration pour faire un génocide de tout le peuple juif. Elle se retrouve là, elle ne sait pas quoi faire. Encore une fois, elle va conseiller son oncle, dire, là, je fais quoi avec ça, là? Et j'aime la réponse de Mardochée. Et si c'était pour un temps comme celui-ci que tu étais parvenu à la royauté. S'il n'y avait pas de hasard, si la seule raison pour laquelle tu te retrouves là, que tu n'étais pas supposé être là parce que tu n'es pas une babylonienne, tu étais une juive, tu te retrouves là, tu es la reine, tu n'es pas supposé être là. Et si jamais tu étais là pour sauver le peuple, et en fait, c'était ça. Et on n'est pas appelés tous à sauver le monde. Mais si là où tu te trouves présentement, il y avait une raison. Dernièrement, j'ai eu une grosse réflexion sur le timing. Parce qu'il y a deux semaines, dans la tempête, j'étais sur Charest, je me retournais, il était tard le soir, et il n'y avait pas beaucoup de voitures. Je roulais prudemment, comme je roule toujours prudemment. Et j'arrive à l'intersection de la couronne, et moi, elle est verte. Mais il y a un copain en SUV qui est passé sur la rouge. Et j'ai donné un coup de volant pour l'éviter. On s'est rentré dedans, évidemment. Fait que ma vie s'est défilée en quelques instants. Finalement, plus de peur que de mal. C'est plus ma voiture qui a pris tout le mal. Mais après ça, j'ai réfléchi. Si j'ai une question de seconde, 45, si j'étais parti 45 secondes après ou 45 secondes avant, il n'y en aurait pas eu d'accident. C'est fou pareil, quand tu penses à ça. Des gens que tu rencontres, des fois, comme par hasard, tu rencontres telle personne, et cette personne-là qui se présente dans ta vie, et des fois, pour un travail, c'est la même chose. Il n'y a pas de hasard, mais cette question-là de timing, c'est fou pareil. Et des fois, on n'a pas toute d'explication. J'aurais aimé ça avoir une explication aujourd'hui, pourquoi, mais t'as eu un accident. Ça ne sert à rien, là. On va se le dire, là. C'est plus gossant que d'autres choses. J'ai pas de leçon à retenir. autre le fait que je réfléchis beaucoup au timing présentement. Puis à chaque fois que je pars, je me fais comme, tu pars-tu maintenant ou 5 minutes plus tard? Puis à cette heure, je fais des stops aux vertes pour être sûr qu'il y a quelqu'un qui passe en rouge. J'ai changé ma conduite. Je suis très prudent. Mais ici, c'est cette question-là de... Mardoché va mettre ça, et si Dieu ne t'avait pas appointé là, tu ne comprenais pas pourquoi tu es arrivé à la royauté, mais si c'est la raison, c'était pour ce moment-là. Et si dans ta vie, là où tu es présentement, il y a une raison. Et ça n'a pas besoin d'être sauver le peuple, sauver la ville, mais pour des personnes autour de toi. Pour avoir un impact dans la vie des gens autour de toi. Que les personnes, que cette personne-là que tu as rencontrée, le travail où tu es présentement, tu peux faire une différence, peut-être une raison derrière ça. Et des fois, on ne regarde pas ça, on fait juste vivre, hein, on se lève le lundi matin, oh, lundi matin. Bon, il fallait qu'on parle encore du lundi. Puis là, tu dis, ben, je fais ma semaine, je fais mes affaires, puis on ne réfléchit pas à ça. Mais si on s'arrêtait un instant, tu sais, après s'être regardé demain matin dans le miroir, dire, je suis une créature merveilleuse, là, fais juste prendre 5 minutes pour dire, pourquoi je suis où je suis rendu dans ma vie? C'est quoi la raison d'être des gens autour de moi à l'église et des gens que je croise, que je côtoie? Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Erwin McManus a dit, « Si tu planifies avancer avec Jésus, le pionnier, tu devrais t'attendre à des changements. » On devrait s'attendre à des changements si on suit Jésus. Dans Matthieu 17, les versets 3 à 4, ça dit, « Voici que Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi et un pour Moïse et un pour Élie. » Vous voyez encore l'idée de confort? Pierre était prêt à rester sa montagne forever. Lui, c'était son plan de retraite, là. Il disait, « Il est bon qu'on soit ici, j'espère. » Moïse et Élie t'apparaissent, t'es avec Jésus. Les 3 mousquetaires. Fait comme, wow, big deal, hein, je reste ici. Voyons, c'est quoi les chances? On reste ici, on se fait des tentes. Hein. Start le barbecue. On fait des hot dogs pour tout le monde. Et Jésus fait, non, 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 on reste pas là, là, les chums, on redescend en bas. Et la première chose, c'est qu'il y avait des gens avec des besoins, puis on reste pas là. Mais notre tendance est toujours de rester, et dans notre foi et avec Jésus, c'est qu'on arrive à un point des fois dans notre vie qu'on ne veut plus être dérangé. On l'a été dans le fond, Jésus nous a dérangé la journée où il est entré dans notre vie. Puis là après ça, tout ce qu'on veut, c'est on cherche un peu le cruise control, puis on cherche un peu la bénédiction à gauche et à droite, mais pas trop de changement, pas trop de dérangement, pas d'inconfort s'il vous plaît. Mais quand on arrive à cette zone-là, on est en train de perdre ce que Jésus veut faire dans notre vie. Malheureusement, c'est ça. Actuellement, la volonté de Dieu pour nous est moins à propos de notre confort qu'à propos de notre contribution. Dieu ne choisit pas pour nous la sécurité au profit de ce qui est significatif. Dieu t'a créé pour que ta vie compte et non pour que tu comptes les jours de ta vie. Et si tu es rendu à compter les jours de ta vie, retourne voir Jésus. Des fois, on le laisse en périphérie, parce que on va le voir quand ça ne va pas. On espère être béni. Puis quand on est béni, on fait comme, je me croise les doigts, il faut que ça reste de même. Et que si j'ai Jésus dans ma vie, je vais être dans le confort. Si j'ai Jésus dans ma vie, je vais avoir de la bénédiction. Si. Mais étrangement, Dieu a appelé Noé à construire une arche pendant qu'il y avait une sécheresse. Il a appelé Abraham, qui était un des hommes les plus riches de l'époque, à partir de chez eux en lui disant, « Je ne te dis pas où tu vas. » Dieu est allé chercher Moïse, qui n'avait pas les capacités, qui pensait qu'il était moins que rien pour délivrer son peuple. Dieu a choisi David, les apôtres, les 12 moins que rien, pour les sortir de leur zone de confort, pour les amener là où ils devraient être, à leur place, à la place, là où Dieu avait créé des bonnes œuvres pour eux. Et des fois, on ne voit plus Dieu agir parce qu'on est trop dans notre confort. J.D. Greer a dit, lorsque vient le temps d'accomplir une grande vision, ce n'est pas les rêves que tu rêves qui sont importants, mais les petites décisions que tu prends. Peu importe tes désirs, tes aspirations, tes rêves, tant que ça reste dans ta tête, ça reste dans ta tête, il ne se passera rien. Et des fois, on attend de, voici le plan, si je suis rendu là dans ma vie, si j'ai ça, si j'ai telle finance, si j'ai telle affaire, si j'ai telle personne dans ma vie, si ça, je vais... Mais c'est les petites décisions que tu prends aujourd'hui qui vont faire toute la différence, qui vont t'amener là où tu devrais être. Je termine avec ceci. Le seul mot que Dieu a besoin d'entendre pour te faire avancer, peu importe ton âge, ton passé, ta situation, ta nationalité, ta personnalité, tes échecs, tes réussites, ce que tu as ou n'as pas, est simplement « OK ». Souviens-toi que si tu n'es pas mort, tu as encore quelque chose à offrir. Et des fois, on cherche la grande révélation spirituelle, la grande capacité de ça. En fait, tout ce que, si tu regardes tous les personnages dans la Bible que je viens de te nommer, la seule chose qui a fait une différence dans leur vie, c'est qu'ils ont dit « OK ». C'est tout ce que Jésus a besoin pour toi. Sérieux? Il a juste besoin que tu dises « OK ». Et ce matin, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, c'est ce que je devrais revenir. Tout ce que Jésus a besoin de toi ce matin, c'est « OK ». Peut-être que tu es ici et tu n'as jamais osé faire entrer Jésus dans ta vie parce que tu es comme « Ah, je suis spectateur, c'est quand même, c'est cool, la musique, tout ça. » Le gars, ce qu'il dit en avant, ça fait du sens. Pas toujours, les jokes sont plates des fois, mais bon, on passe par-dessus. Mais ce matin, tout ce que tu as à faire, c'est de dire « OK ». Pour tes désirs, tes aspirations, de trouver ta place ce matin, tout ce que tu as à dire à Dieu, c'est « OK ». OK de sortir de cette situation-là. OK de sortir de mon confort. OK d'être dans l'inconfort, mais OK de marcher par la foi. Baissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Tu connais chaque personne ici. Et merci parce que chaque personne est aussi importante que l'autre à tes yeux. Merci parce que chaque personne, tu l'as créée à ton image. Merci parce que chaque personne est une créature merveilleuse à tes yeux. Merci parce que chaque personne est unique et tu as déposé dans chaque personne des dons, des capacités, des talents, des qualités qui ne se retrouvent pas dans la personne à côté d'elle. Et merci Seigneur parce que tu as encore des œuvres bonnes préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Il n'y a rien de terminé. Mais que l'on puisse, Seigneur, ouvrir notre cœur, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux et de voir, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire. Et que l'on puisse, Seigneur, comme la veuve, juste dire, voici ce que moi, je veux répondre à ta question, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et de te le confesser, Seigneur, et de dire, OK. Merci de faire avancer chaque personne, progresser en toi, chaque personne qui est ici, dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble, on va terminer avec un chant.